Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
L'anesthésiste de Besançon toujours en garde à vue ce matin.
C'est la deuxième fois, il est déjà mis en examen pour plusieurs empoisonnements. Le repreneur d'Ascoval est lui-même à la recherche d'argent frais. British Steel négocie en ce moment même pour obtenir 75 millions d'euros de subventions. Dans ce journal, Notre-Dame, un mois après l'incendie, l'extraordinaire travail de tri des gravats à l'aide d'un robot, reportage. Et puis la CGT, Philippe Martinez, contesté notamment sur l'égalité homme-femme au sein de la centrale.
Deux fois le temps d'ici 6h30.
À Corté, en Haute-Corse, nuages, averses. Ce matin, ce sera mieux cet après-midi, mais seulement 14 degrés.
RTL Matin.
Mais avant toute chose, du foot et une page qui se tourne pour l'un de nos plus célèbres champions du monde.
Antoine Griezmann ne jouera plus la saison prochaine à l'Atlético Madrid, son club de cœur. Il y est depuis 5 ans. L'attaquant des Bleus l'a annoncé hier soir dans une vidéo adressée à ses supporters.
Hola a todos.
Bonjour à tous, je voulais vous parler à vous les supporters qui m'avaient beaucoup donné d'affection. Je voulais vous dire que j'ai pris la décision de partir, de voir d'autres choses, de connaître d'autres défis. Je voulais vous remercier pour votre soutien pendant ces 5 années. J'ai gagné mes premiers titres, des trophées importants avec ce club. Je ne l'oublierai jamais. Merci beaucoup du fond du cœur et à bientôt.
Voilà, Antoine Griezmann, on se souvient que juste avant le Mondial l'an dernier, il avait prolongé avec l'Atlético. Le Barça, déjà très offensif à l'époque, fait évidemment figure de favori pour l'accueillir la saison prochaine. D'après le journal Le Parisien, le PSG serait aussi intéressé. La clause libératoire, c'est-à-dire le montant minimal dont devra s'acquitter le nouveau club pour le transfert, est de 120 millions d'euros.
RTL, 6h02, on en vient à l'enquête sur cet anesthésiste de Besançon soupçonné d'empoisonnement. Enquête relancée par une nouvelle garde à vue du suspect.
Le docteur Péchier est mis en examen depuis 2 ans. Il se trouve à nouveau depuis hier dans les locaux de la police judiciaire de Besançon. Jusqu'à présent, on parlait de 7 cas, dont 2 mortels. Certaines sources parlent maintenant d'une 50aine d'incidents médicaux suspects, ce que dément son avocat, maître Randall Schwerdorfer. Il a donné quelques précisions dans la soirée.
On est très en dessous de 50 cas. On est sur un nombre de cas important, mais pas sur 50 cas. Ce n'est pas la réalité de son placement en garde à vue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le docteur Péchier a toujours dit la même chose. Il n'a jamais été impliqué de quelque façon que ce soit dans un acte criminel, dans un acte d'empoisonnement. C'est sa position depuis le départ. C'est toujours sa position à l'heure où je vous parle. Et je suis profondément persuadé, comme ses avocats, que le docteur Péchier gardera bien évidemment cette même défense.
Maître Schwerdorfer avec nos confrères de l'Est républicain. Le dossier Ascoval est décidément les nerfs des 270 salariés de Saint-Saulve sont mis à rude épreuve. Le repreneur British Steel a besoin d'argent frais. Il discute avec les pouvoirs publics d'un nouveau soutien financier. D'après la chaîne britannique Sky News, il lui manquerait 75 millions de livres pour poursuivre son activité dans les prochains mois. Le groupe a publié un communiqué hier soir, rédigé en français. Il affirme qu'il respectera tous ses engagements pour mener à bien la reprise d'Ascoval.
C'était il y a un mois, tout juste après l'incendie de Notre-Dame, les gravats sont loin d'avoir été évacués.
Et pour cause, ils sont tous récupérés, tout sera conservé pour les besoins de l'enquête, de la science, de l'histoire et de la reconstruction. Un travail de fourmi pour lequel les ouvriers du patrimoine sont assistés des meilleures technologies, Sophie Orange.
Et c'est un petit robot pelleteuse télécommandé qui va chercher les gravats, un par un. La zone est encore trop risquée. Les morceaux sont ensuite étiquetés, répertoriés, inventoriés, numérotés, mais surtout scannés comme un corps humain, explique Charlotte Hubert, l'une des 4 architectes en chef des monuments historiques.
C'est un scanner en 3 dimensions, comme de l'imagerie médicale, et qui relève tous les éléments. Il y a 40aine de points par centimètre carré.
Des informations très importantes pour comprendre comment les pierres, les poutres, les objets sont tombés la nuit de l'incendie, à quelle vitesse ils ont brûlé, sur quelle épaisseur ils sont abîmés. Un travail très long, il y a des milliers de morceaux de toute taille, très précis, mais une étape déterminante pour la restauration à venir.
Qu'est-ce qu'on pourra reposer ? Certaines pierres, très certainement. Des éléments de décor de la flèche ont été récupérés, des crochets de plomb, des choses. Ils sont très cabossés, ils sont quand même chutés de très haut. Et tout ce qui pourra être remis sur place, ça remis, elles ont vocation, bien entendu, à retrouver Notre-Dame de Paris.
En revanche, les cloches de la flèche n'ont toujours pas été retrouvées. Ont-elles fondu ou alors elles sont encore dissimulées sous les tonnes de gravats?
Merci Sophie Orange.
Allez, on passe aux européennes et l'écart semble se creuser entre le Rassemblement National et La République En Marche à 11 jours du scrutin.
La liste soutenue par Marine Le Pen obtient 23% d'intention de vote contre 20 à celle en emmené par Nathalie Loiseau. Sondage Kantar ce matin dans La Croix. Comme dans la plupart des enquêtes, François-Xavier Bellamy et les Républicains sont à 14%. Ce soir, le parti va afficher son unité. Photo assez rare, hein. Laurent Wauquiez aux côtés de Valérie Pécresse ou encore Gérard Larcher. Tous sur la même scène, ça n'était pas arrivé depuis 2017. Dominique Tenza, ça tient beaucoup à la personnalité de la tête de liste.
Ah oui, il paraît loin aujourd'hui le temps où le président du Sénat, Gérard Larcher, s'indignait contre la tête de liste choisie par son parti.
François-Xavier Bellamy n'est pas mon choix. Pour moi, il ne coche pas toutes les cases.
Le même Gérard Larcher, il y a quelques jours sur RTL, visiblement transformé.
Peut-être que j'ai été séduit, après avoir eu des doutes, par une forme de fraîcheur.
C'est peut-être ce qu'on appelle l'effet Bellamy, ou comment réunir côte à côte Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et leurs égaux respectifs. Un signal encourageant pour le député de la Manche, Philippe Gosselin.
Vous savez, moi je crois qu'on est encore en convalescence. C'est quand même une réalité. Le choc a été violent il y a deux ans maintenant avec l'élection présidentielle. Et que la droite puisse se retrouver, c'est sans doute un des exploits de Bellamy.
Si la candidature du philosophe aura eu un mérite, c'est peut-être celui-ci. Rassembler le temps d'une élection, la famille pour le moins tourmentée des Républicains.
Dominique Tenza, une avancée hier soir sur le Brexit. Le gouvernement britannique annonce qu'il présentera une loi pour sortir de l'Union d'ici une grosse quinzaine de jours. Texte issu d'une longue discussion avec l'opposition travailliste, avec l'opposant travailliste Jeremy Corbyn. L'examen est prévu dans la semaine du 3 juin. Theresa May espère ainsi éviter que les députés européens qui seront désignés lors de l'élection du 23 mai en Grande-Bretagne ne siègent au Parlement de Strasbourg lors de la première session prévue le 2 juillet.
On revient en France où la CGT vit un congrès pas comme les autres depuis le début de la semaine à Dijon.
Philippe Martinez n'a obtenu que 71% d'approbation au cours d'un vote hier, à peine 60% si l'on prend en compte l'abstention. C'est faible par rapport à la plupart de ses prédécesseurs. La direction du syndicat se voit reprocher par la base sa mauvaise appréhension de la crise des Gilets jaunes. Autre sujet de tension, un manque de cohérence sur l'un des combats de la CGT, la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Anaïs Bouissou, vous êtes à Dijon, vous suivez ce congrès et les militantes féministes se sont fait entendre hier.
Allez, un bonbon antisexiste pour une CGT féministe.
Devant l'entrée du congrès, 5 militants distribuent des bonbons aux vertus thérapeutiques.
Il faut que les femmes aient toute leur place à la CGT.
On distribue des bonbons, des pilules antisexisme pour avoir une CGT plus féministe.
Une touche d'humour pour un sujet lourd à la CGT.
Donc on a une petite table avec les ballons CGT MeToo.
Charline, militante d'Île-de-France.
Les remarques désobligeantes en réunion, c'est les plus vécues dans mon syndicat que dans mon milieu du travail professionnellement. Les remarques, les blagues, mais aussi des fois des agressions physiques, sexuelles, pas toujours sanctionnées. Nous, on a un exemple très concret à la ville de Paris, très néfaste pour les femmes. Et en fait, malgré l'ensemble des alertes, cet agresseur est toujours en place. Et d'ailleurs, il a été réélu très tranquillement aux dernières élections professionnelles.
Les bonbons antisexistes sont rapidement distribués aux hommes comme aux femmes.
Toutes les femmes nous disent la même chose, mais c'est bien ce que vous faites et tout, parce qu'on n'en peut plus.
C'est même l'occasion pour une militante victime de laisser discrètement ses coordonnées. Côté parité, si la CGT progresse, Philippe Martinez regrette que les femmes représentent moins de 39% des syndicats.
Reportage d'Anaïs Bouissou au congrès de la CGT à Dijon. Enfin, le coup d'envoi de la 72e édition du Festival de Cannes, il a été donné hier soir par Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem. Les deux acteurs ont en commun d'avoir tourné avec Iñárritu, le président du jury cette année. Cérémonie suivie de la projection du premier film en compétition, un film de zombies, The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch.
Merci beaucoup Jérôme, on vous retrouvera tout à l'heure à 7h avec Yves Calvi. Le temps, Marina, ce n'est pas...